La dysmorphie financière. Ah, à partir de combien sur le compte bancaire on est riche? Ah, je pense que si j'ai 5000 euros sur mon compte, je suis riche, hein. Je suis vraiment bien.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour deux heures de décryptage de notre époque à travers ses mots, ses expressions et en plus, en ce qui me concerne, d'être payé pour ça. Oui, Zoom Zoom Zen, c'est une émission win-win. Le gai savoir pour vous, la joyeuse moula pour moi. Et si je vous parle d'argent aujourd'hui, c'est qu'on va zoomer sur un phénomène intriguant qui concerne notamment les jeunes actifs, les moins de 35 ans, et dont Quentin, lui, est hélas le triste prototype. Ce phénomène, c'est la dysmorphie financière. Une nouvelle forme d'anxiété déformant notre perception de l'argent qui nous amène à douter de notre situation même lorsqu'elle est stable. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène, poussant 40% des jeunes à dépenser au-delà de leurs moyens pour maintenir une image virtuelle. Et voilà comment un intermittent du spectacle, responsable d'un micro-trottoir, se met à sauvagement ponctionner son PEL pour pouvoir parader dans Radio France avec un sweat Balenciaga. Comme s'il était aussi riche que Yann Marguet, alors que non, Quentin, vous n'êtes pas aussi riche que Yann Marguet, vous êtes juste un peu plus riche que Merwan Ben Lazar. Vous ne pouvez pas dépenser tout votre argent dans le luxe, en plus ça ne sert à rien. Malgré tous vos efforts, Loïc Prigent trouve quand même que vous ressemblez à une cagette de fruits. Alors vraiment, notre invité vous le dira, vous feriez mieux d'épargner. En plus, Balenciaga, je vous le dis, c'est en train de devenir un peu has-been.
Ouais, j'ai l'air has-been. J'en ai pour plus d'une barre de fringue sur moi. Alors va te faire mettre.
Mais c'est ça votre problème, Quentin. Dès qu'on vous fait une remarque, vous prenez la mouche. Mais que vous le voulez ou non, vous allez apprendre énormément de choses cet après-midi. Zoom Zoom pèse, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Noël.
Bonjour Mickaël Mango.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Mickaël, vous êtes économiste, vous enseignez à l'ESSEC et vos deux spécialités sont assez particulières, l'économie comportementale et l'économie du bonheur. Alors déjà en deux mots, c'est quoi l'économie du bonheur ?
Eh bien, c'est une discipline tout à fait sérieuse qui regarde comment les comportements économiques des gens et leur situation économique sont reliés à leur niveau de bonheur.
Directement.
Direct, parce qu'on a les données sur tout et donc on peut connecter les données.
Vous allez donc nous expliquer de ce qu'on entend par dysmorphie financière, juste le temps de vous présenter deux spécimens de ce que, dès les années 90, MC Solar appelait des... Manon, Marianne et Quentin, lui. Plus de 3 barres de fringues sur eux au moment où nous parlons. Bonjour.
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 Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
À vos côtés, Mickaël, à l'heure où Radio France cherche des économies partout. À l'heure où même les présentateurs d'émissions se serrent douloureusement la ceinture, puisque je vous rappelle que cet été sur la plage, j'étais non pas en première, mais en deuxième ligne.
Oh, elle est revenue. Et dans votre piscine.
Elle est revenue du Mexique avec un bronzage de multimillionnaire et des Santiago en piton. 3 semaines que son conseiller bancaire BNP Paribas cherche à la joindre, mais qu'elle est dans un tunnel. Manon, quelle est votre pièce jointe aujourd'hui?
J'ai acheté ces Santiago dans une friperie quand même, je tiens à le dire.
Ah, c'est vrai?
Bah oui, Mathieu,
alors,
évidemment.
Quelques
dans une friperie, mais vous avez dit un prix exorbitant.
Non, mais pas du tout, j'ai dit pas cher. Bon bref, on s'en
combien
fiche.
Vous nous révélerez le prix tout à l'heure.
Très bien. Hashtag aujourd'hui dans ma pièce jointe qui incite justement à arrêter de dépenser son argent inutilement, comme moi dans des friperies au Mexique. Des TikTokers cherchent à faire des économies.
Face à vous, Mickaël, vous serez d'accord avec cette affirmation. Pour se débarrasser de la dysmorphie financière, il n'y a que 2 solutions. Il faut soit en guérir, arrêter de comparer son train de vie avec celui des stars qu'on suit sur Instagram, ou alors trouver un moyen de faire encore plus de thunes. Or, Quentin, que je pensais être un peu malin en affaires, est en réalité une grosse victime qui, depuis des mois, voire même maintenant des années, se laisse abuser par un humoriste suisse bien plus riche que lui, humoriste dont il est devenu la chose, notamment en participant à toutes ses chansons gratuitement.
Nous sommes immondes.
Nous sommes immondes.
Nous sommes dégueulasses.
Nous sommes dégueulasses.
Oh non, je le fais pour le fun, nous avait dit Quentin. Mais Quentin, c'est fun de gagner de l'argent. J'essaie oui. de vous l'apprendre, mais vous n'avez pas l'air de comprendre.
Vous parlez de Yann, mais quel Yann ?
Yann Marguet.
Ah, Yann Marguet, oh, effectivement, comme vous le dites si bien, Mathieu.
Oh, ma langue a fourché une fois.
Mais il faut bien le motiver, ce cher Yann. Ou alors quoi, on tape dans votre salaire à vous, Mathieu ?
Hein ? Bon, non, voilà. Mauvaise idée.
Avec plaisir.
Je suis parti dans les rues de la capitale causer avec vous de cette sensation désagréable, se voir plus pauvre qu'on ne l'est vraiment. Comment l'expliquer ? Alors pour Mathieu, simplement de la radinerie, mais dans la rue, on a d'autres idées. On a d'autres idées. Avant 16h30, on sera complètement à la rue sur la thune.
Il n'y a pas que Manon et Quentin qui ont un train de vie totalement déconnecté de leurs revenus. Plein de de jeunes actifs sont dans leur cas. Vers 16h30, le Zoom Zoom Test sera consacré aux syndromes les plus fous liés à l'argent. Juste avant 17h, voilà Quentin, quelqu'un qui peut faire son shopping chez Balenciaga sans mettre en péril l'avenir de ses enfants. Oui, mais elle remplit des zéniths, ce qui, quelle que soit la qualité de vos micro-trottoirs, n'est pas encore le cas, mon cher Quentin. Marine Leonardi, la maman star, nous rejoindra après 17h. Oui, c'est comme ça, un petit surnom que je trouve. Elle aime bien. Elle m'encourage à trouver des surnoms de ce genre. Après 17h, histoire d'analyser le discours de François Bayrou à l'Assemblée, qui de mieux qu'un grand historien qui en a vu d'autres, Jean Garrigue, sera avec nous. Je vous demanderai de bien vous tenir à ce moment-là de l'émission. Mais d'abord, donc, la dysmorphie financière, Michael Mango. Cette idée d'avoir l'impression de toujours manquer d'argent par rapport aux autres, c'est une forme de jalousie déjà ?
Pas vraiment. Effectivement, ça dépend de la tendance qu'ont les gens à se comparer aux autres. Et ça, si tout le monde se compare, ça c'est clair, tout le monde ne se compare pas autant. Donc il y a vraiment des personnalités qui sont plus promptes à la comparaison. Et donc eux ont vraiment plus de chances de tomber dans l'anxiété financière ou dans la dysmorphie financière. Ce qui est un peu différent.
Il y a déjà donc une prédisposition. On est tous plus ou moins prédisposés
psychologique,
à,
tout à fait.
À ressentir ça.
Donc déjà psychologique, oui. Et à côté, vous avez la chance ou la malchance d'avoir le bon réseau d'amis. Si vous êtes entouré d'amis riches, c'est foutu.
C'est foutu pour vous.
Bah oui.
Lui, je vous le dis honnêtement, il est entré dans sa 51e année, il ne comprend pas grand-chose à tout ça. Ce qui compte pour lui, c'est la santé. Que son dos cesse de le faire souffrir. Après, un bon bridge pour pouvoir continuer à manger solide le plus longtemps possible, voilà tout ce qu'il demande. Bonjour Cyril Lacaille.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et en plus tu tousses, mon
gars. En plus je tousse.
Alors, prendre du sirop. Hein,
je prends du sirop.
Il a acheté un petit sirop, il a son Toplexil sur le bureau. Cyril, racontez-nous cette dysmorphie financière, d'où ça sort ?
Imaginez, vous gagnez correctement votre vie, vous avez de quoi vous faire plaisir, une côte de bœuf maturée par-ci, une épaule d'agneau par-là, vous payez votre loyer à temps, pourtant, chaque fois que vous jetez un œil sur votre compte Instagram, vous avez l'impression d'être à sec. Non que vous l'êtes vraiment, mais parce que votre cerveau vous joue un drôle de tour. Eh bien, c'est ça, la dysmorphie financière. En fait, c'est une cousine de la dysmorphie corporelle, ce principe selon lequel certaines personnes, quand elles se regardent dans le miroir, se voient trop grosses, trop maigres, trop grandes, trop petites. Alors, en fait, que leur corps va bien. Eh bien, cette notion de dysmorphie financière est apparue quand des jeunes adultes ont commencé à expliquer qu'ils ne se sentent jamais riches, même après avoir été augmentés.
Un sentiment qui relaie évidemment sur les réseaux sociaux.
Oui, ces vitrines permanentes de la consommation. Instagram, c'est la version moderne de MTV Cribs. Vous connaissez peut-être cette émission Maison de Stars en version française, émission où des caméras, visitent les demeures des vedettes du show business. Je vous recommande l'épisode sur le penthouse de Mathieu Noël.
Bon,
mais
seulement.
Là, c'est dans la vraie vie ou presque. Tout le monde s'affiche avec des baskets à 300€, en voyage dans des hôtels de rêve ou des brunchs dans des palaces. Et forcément, quand on regarde dans son miroir, votre quotidien paraît toujours trop modeste. Bref, la dysmorphie financière, c'est une illusion très contemporaine, car si dans les années 80, on se comparait à ses collègues, sa famille, ses amis, désormais, on se compare à Kylie Jenner, et forcément, ça pique un peu. Alors, d'où ça sort, la dysmorphie financière ? De là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Alors, Michael Mango, on ne va pas tourner autour du pot longtemps dans cette émission. Cette dysmorphie financière, elle a toujours existé, mais elle est quand même boostée à fond par les réseaux sociaux.
Tout à fait. Mais pour vous répondre, j'ai quand même des difficultés parce que le concept, il n'est pas encore bien documenté par la recherche. Il n'est pas du tout considéré comme une pathologie par les associations de psychiatres.
Ah, oui.
Donc c'est plutôt un mot qui fait le buzz.
Ouais.
Mais qui a du sens parce qu'il se rattache très bien à deux choses qui ont déjà été vues, mais depuis des dizaines d'années. Mmh. C'est-à-dire, l'anxiété financière qui est assez générale et que l'on retrouve aussi chez les riches, pas que chez les pauvres. Et deux, les erreurs de perception. Les gens ne savent pas du tout se situer sur l'échelle des revenus. Il y a un biais du milieu qui est évident.
Qu'est-ce que le biais du milieu ?
Le biais du milieu, c'est que vous soyez riche ou pauvre, vous avez l'impression d'être dans la classe moyenne.
Ah oui.
Et là, on sait très bien l'expliquer. C'est que...
Enfin, Kylie Jenner, elle se doute qu'elle n'est pas dans la classe moyenne.
Oui. On parle des gens normaux.
Non, voilà, mais on va dire, chez les gens aisés et chez les gens modestes, vous avez quand même une tendance à se dire classe moyenne. Et on l'explique très bien, c'est tout simplement à cause de l'homophilie. C'est-à-dire que ce n'est pas une pratique sexuelle.
Ah non, mais tout est possible.
L'homophilie, c'est le fait de se lier avec des gens qui nous ressemblent, qui ont le même niveau de revenu, le même niveau d'éducation, le même âge. Et du coup, fort naturellement, vous vous sentez moyen. Vous vous sentez moyen puisque vous n'êtes qu'avec des gens qui vous ressemblent. Mais les riches se sentent moyens parmi les riches. Et les pauvres se sentent moyens parmi les pauvres. Et du coup, quand on leur demande « Mais vous faites partie de quelle classe au final ?» Bah, tout le monde se voit classe moyenne.
Alors, on a beau savoir qu'on ne peut pas comparer sa vie avec celle des stars américaines, des footballeurs qu'on suit sur les réseaux, qu'est-ce qui fait qu'inconsciemment, on le fait quand même ? Je veux dire, on sait bien que ça n'a pas de sens de se comparer.
Mais c'est la psychologie évolutionniste. Hein. C'est que nous sommes une espèce, l'espèce humaine est une espèce stratifiée et on a tous un radar pour le statut. Donc on sait reconnaître les signes de statut,
mais ça nous sert à quoi ? Ça doit nous servir à quelque chose ?
La comparaison sociale, déjà il y en a trois comparaisons sociales. Ouais. Il y a l'ascendante, la descendante et l'horizontale. Ouais. Donc là on parle de l'ascendante. L'ascendante, elle sert à se motiver.
On se dit demain, si je bosse bien, si je fais tel truc, je vais pouvoir atteindre ce niveau-là.
Et il y a une logique potentiellement évolutionniste derrière, qui est la compétition sociale pour les partenaires sexuels, etc. C'est la base de la base. Et après, ça se décline après dans nos sociétés modernes, technologiques, ça passe par les réseaux sociaux. Avant, ça passait pas par les réseaux sociaux.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Quand comparaison n'est pas raison, zoom aujourd'hui sur le phénomène de la dysmorphie financière. Vous savez, quand vous traînez un peu trop sur Instagram et que vous vous dites que décidément Neymar a une vie sympa et que la vôtre à côté est un peu cheap. Un spécialiste de l'économie comportementale et de l'économie du bonheur, Michael Mango, est toujours avec nous pour nous expliquer cette dysmorphie financière ou anxiété financière. Tout à l'heure, on parlait du rôle prépondérant des réseaux sociaux, sauf que vous me disiez en antenne, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour ressentir ça. La télévision y contribue déjà beaucoup.
Oui, énormément. Depuis les années 80, on a plein d'études qui montre que plus vous regardez la télé, plus vous vous sentez pauvre. Tout simplement parce que dans les pubs, dans les séries, dans les films, on montre une pyramide sociale complètement inversée, avec que des cols blancs et très peu de manutentionnaires, de chauffeurs routiers et de livreurs de pizza. Et on sait que plus on regarde la télé, plus on va avoir tendance à surconsommer et à avoir un niveau d'épargne faible. Parce qu'il y a cette idée qu'il faut tenir le rythme, en fait.
Quand on se sent pauvre, on a envie de tout faire pour montrer des signes extérieurs de richesse.
Parce que là, ça dépend. Il y a deux anxiétés différentes. Il y a l'anxiété financière et l'anxiété statutaire. L'anxiété financière, c'est je sens que j'ai des difficultés pour tenir mon niveau de vie et j'ai peur pour l'avenir aussi, par exemple pour ma retraite. Donc là, ça m'amène plutôt à épargner. Mais vous avez à côté l'inverse, qui est l'anxiété statutaire. Je sens que je suis en difficulté pour tenir le rythme des autres. Et donc là, je vais plutôt surconsommer pour donner le change. Et c'est là que se posent les problèmes de sous-épargne, voire de surendettement, de découvert, etc.
Est-ce qu'on a un temps de retard sur les États-Unis ? Le surendettement, on en parlait beaucoup aux États-Unis dès les années 70-80 plutôt, et maintenant on a l'impression que ça est complètement arrivé chez nous, ce problème du surendettement.
On est en retard, heureusement en retard là-dessus.
Ah, on est encore en
retard. Ah oui, si, ils sont plus les Américains sont plus matérialistes. L'importance de l'argent, par exemple, pour le bonheur est plus centrale aux États-Unis qu'en Europe, pas qu'en France. Donc oui, on a un train de retard et je ne sais même pas si on comblera ce train. Heureusement, oui. Non, ce ne sont pas les mêmes valeurs. On est moins matérialiste que les Américains.
Vous parlez aussi de la psychologie de la pauvreté. Même quand on n'est pas pauvre, d'ailleurs, on focalise toute son attention sur le fait de gagner de l'argent. Et ça aussi, ça peut avoir des conséquences très concrètes, notamment dans son travail.
Ah oui, donc il y a beaucoup d'études sur la psychologie de la pauvreté. Quand vous vous sentez pauvre, ça vous amène à réduire votre champ cognitif sur cette question-là, qui est d'accumuler des ressources. Et du coup, ça vous, entre guillemets, ça vous bouffe la tête.
C'est obsessionnel.
Et ça va vous empêcher de prendre de bonnes décisions dans tout le reste de votre vie, au boulot, mais pas qu'au boulot, même sur les questions financières, en fait. Tellement votre bande passante est utilisée que vous allez faire de mauvais placements. Donc, il faudrait vivre dans l'illusion qu'on est riche. C'est mieux de vivre dans l'illusion qu'on est riche que dans d'avoir la fausse perception qu'on est pauvre.
C'est le conseil que vous donnez à nos auditeurs chaque matin dans le miroir, se dire qu'est-ce que je suis riche, j'ai cette brosse à dents, elle est toute neuve.
Qu'est-ce que je suis beau et qu'est-ce que je suis riche.
Tout à fait. Pardon, je ne donne pas de marque.
Mais dans les deux cas, on vit au-dessus de ses moyens.
Oui, mais quand on a l'impression d'être riche, on prend de meilleures décisions et surtout on prend des décisions plus risquées et qui payent plus. Par exemple, on investit plus dans l'éducation et on place son épargne sur des actifs plus risqués comme les actions qui rémunèrent plus.
On peut s'endetter aussi, non ?
Oui, il y a ça aussi. Il y a du plus et du moins à se sentir trop riche.
Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes ? Est-ce que les femmes ne sont pas plus sujettes à la dysmorphie financière vu qu'on gagne moins ? Je veux dire, la comparaison est peut-être un peu plus grande du coup.
Oui, et puis il y a un deuxième problème chez les femmes. Donc il y a le problème effectivement des revenus et puis il y a le problème aussi d'une moindre connaissance économique et financière qui crée une anxiété. Les gens qui ont l'impression de bien comprendre l'économie et le monde des placements ont ont moins d'anxiété financière.
Même quand c'est une illusion, qu'ils la comprennent peut-être pas mieux.
Mais
cette confiance...
Tout est affaire de perception. Quand vous faites des études sur le bonheur, ce qui est important, c'est pas votre niveau de santé, votre niveau de revenu, c'est comment vous vous sentez, comment vous vous voyez. Donc la perception est plus importante que la réalité pour le bonheur.
Et alors, qui peut nous aider, si, parmi les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, certains se disent peut-être, mais moi je souffre de dysmorphie financière, clairement. Et comment on en sort de cette dysmorphie ? Est-ce qu'il faut voir un médecin ou un comptable ?
Il commence à y avoir des études, non pas sur la dysmorphie, mais sur l'anxiété financière. On sait ce qui l'allège, ce qui l'apaise. Donc c'est déjà d'en parler. éventuellement sur des forums seulement, juste de ne pas le garder comme un tabou. Il y a une tendance à garder ça comme un tabou. Parce que c'est tellement angoissant qu'on ne veut même pas en parler et on ne veut même pas vraiment y réfléchir. On laisse le sujet sous le tapis. Donc déjà, en parler, c'est bien. Après, vous pouvez en parler à un professionnel type un conseiller financier. Après, il y a d'autres solutions un peu plus radicales. Vous changez d'amis.
Oui, alors...
Que des amis, pour
plus compliqué, quand même.
On peut s'éloigner de ses amis à cause de ça.
Ah, mais oui. Et l'anxiété financière pose des problèmes sociaux. C'est-à-dire que si vous voyez très pauvre et que ça vous amène à être un peu strict sur vos dépenses, bah vous allez refuser les restos, vous allez refuser de partir en vacances avec des amis, voire vous allez peut-être même refuser de faire un enfant. Donc il y a des conséquences sociales très fortes à l'anxiété.
Mais c'est honnête, parce que faire un enfant, c'est une demi-part supplémentaire,
exactement,
je le rappelle à nos auditeurs et auditrices.
Tout à merci, fait. Mathieu.
Petit conseil Mathieu financier.
Tu as plein d'enfants, évidemment.
Oui, vraiment. On sait pourquoi.
Je vous en prie, par amour.
Mais l'environnement social est hyper important pour ce sentiment d'anxiété financière.
Lui, sa capacité à dépenser son argent n'a d'égal que sa capacité à monter dans les aigus. Quentin, chaque après-midi, ce n'est heureusement pas en beuglant,
version,
mais
hein,
en parlant.
Vous étiez coincé le doigt dans une porte.
Pas le doigt.
C'est chic, ça monte en puissance cette émission. Vous êtes parti dans la rue aborder les passants comme chaque après-midi, Quentin. Question dysmorphie financière, vous avez trouvé beaucoup de malades?
Je sors du Forum des Halles à Paris, c'est un carrefour où toutes les catégories sociales se croisent. La très à l'aise qui réajuste sa cravate en descendant du RER et la grande précarité, contrainte de dormir par terre et de tendre la main sur ses bancs de pierre blanche, c'est ici que je fais la connaissance de cette jeune femme, Speed, la trentaine, parisienne.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Alice.
Alice, vous avez quel âge ?
27 ans.
Vous allez où comme ça ? Vous avez l'air pressée ?
Ouais, je vais prendre un café avec une copine.
Qui vous attend ?
Ouais, elle m'attend.
Vous êtes en retard ?
Oui, je suis en retard, donc j'ai pas beaucoup de temps, désolée.
Elle le prend quand même pour découvrir la notion qui nous intéresse aujourd'hui.
La dysmorphie financière ? Ça peut, par exemple, c'est une personne qui aurait plein d'argent mais qui dit tout le temps qu'il en a pas. Voilà, c'est ça. Ah, bah, c'est vraiment un mot de notre société, ça.
Ah, elle a tout compris, Alice. C'est un mot de notre époque. C'est l'ère du temps qu'on décortique. Et c'est ce qui nous anime au quotidien dans Zoom Zoom Zen.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de notre entourage qui sont comme ça, qui ont énormément d'argent, qui vont avoir leur livret A ou leur livret plein, mais qui sont tout le temps, qui n'ont jamais de thunes. Du coup, je ne savais pas que ça s'appelait la dysmorphie financière, mais c'est quelque chose qu'on ressent au quotidien. Des personnes blindax qui te disent « j'ai pas d'argent ».
C'est pas des radins ?
C'est un peu des radins aussi, mais je pense que t'as raison du terme dysmorphie financière, parce que je pense qu'ils n'en sont même pas conscients. Ils font pas du tout exprès, c'est juste que c'est un stress financier pour eux constant. Et du coup, c'est un petit peu aussi égoïste, je trouve, parce que du coup, tu voles un peu la vedette à ceux qui ont vraiment pas d'argent, quoi.
Par conséquent, mais pour elle, il y a aussi cette autre explication.
On n'ose pas trop dire aussi qu'on a de l'argent. Du coup, je pense qu'il est quand même mieux vu de montrer que t'as pas trop d'argent, même si t'en as. Enfin voilà, je pense que c'est pour ça que c'est un mot de l'époque. C'est pas la mode d'avoir de l'argent.
C'est pas la mode. On ne dit pas j'ai une piscine à Gigaro dans une maison avec vue sur la Méditerranée. On dit j'ai un petit bassin dans une modeste maison de famille dans le sud.
C'est exactement ça qu'on
c'est
dit.
C'est ça. Jade et sa copine sont étudiantes. Elles plissent les yeux en lisant
la dysmorphie financière. Je pense que c'est la vision, c'est une vision biaisée de la situation financière.
De la tienne.
De la mienne, exactement. Non, de la situation financière dans le monde, non, c'est pas ça.
De la tienne.
Ah, de la mienne.
Ouais. C'est les gens qui ça va, ils ont un bon rythme de vie, mais ils se voient plus pauvres qu'ils ne le sont.
Ok.
Et on en arrive à cette question.
Ah, à partir de combien sur le compte bancaire on est riche ? Ah, je pense que si j'ai 5000 euros sur mon compte, je suis riche, hein. Je suis vraiment bien. Ouais.
Ah, pour moi, t'es très riche. Pour moi, à partir de 2000 euros, t'es riche.
D'économie sur le compte.
Ah, vraiment riche ? Ok, bah 100 000 euros alors.
Okay, donc, ouais. T'as ton salaire qui tombe tous les mois et 100 000 euros de côté. Et là, t'es riche pour toi.
Ah là, je suis bien, ouais.
Non, moi je dirais à partir de peut-être 200-300K, t'es riche. Tu peux genre vraiment faire ce que tu veux, quand tu veux, prendre des billets d'avion, acheter des appartements. Genre si t'as 200K de côté, tu peux vraiment faire ce que tu veux quand tu veux.
On est parti de 5 000 euros jusqu'à 200K. Ouais. Nada est étudiante en biologie. Elle écoutait notre discussion et elle n'est pas d'accord.
Je pense qu'à ce stade, maintenant, c'est à partir de plusieurs millions qu'on est tranquille. Donc c'est ce que je vise. Non, je fais non. On est arrivé à un stade où je pense que c'est très facile de se faire beaucoup d'argent pour certaines personnes, mais du coup de continuer, par exemple les influenceurs, tout simplement, ils peuvent se faire beaucoup d'argent très rapidement. Ouais, en fait, c'est surtout ça, hein, c'est enfin, les influenceurs, quoi, grosso modo. C'est surtout ça que
oui, c'est de leur faute. L'argent facile, la vie de rêve sponsorisée, vécue en guest, qui montre toujours plus. Mais pour Nada, il y a peut-être une explication au fait de se voir plus pauvre qu'on ne l'est.
T'as de moins en moins des choses qui t'appartiennent à toi. Par exemple, avec les sites de streaming et tout ça, tu vois, ça ne t'appartient pas. Du coup, tu dois payer chaque mois pour avoir ce que tu veux. Pareil pour des forfaits, des blablabla. Et en plus, vu qu'on est dans un monde où je trouve qu'il y a un néo-capitalisme...
Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'on paye mais on ne possède pas.
Ouais, en fait c'est ça. C'est... Donc c'est très facile de dépenser son argent. Et du coup, chaque mois, tu vois que beaucoup part. Tu vois, le premier du mois, vu que t'as plein de services à acheter. Enfin, que t'as... où tu t'es abonné.
C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, Netflix a remplacé la collection de Blu-ray, Spotify, les CD. On loue même sa voiture plutôt que de se l'acheter. Alors au fond, qu'est-ce qui nous appartient encore vraiment? Mais ma dernière rencontre, c'est ce monsieur qui souligne une autre observation du phénomène.
Peut-être un climat un peu anxiogène dans le monde actuel. On fait parler que de pouvoir d'achat, et à juste titre. Hein. Mais donc voilà, c'est...
Mais est-ce que les médias ont une part de responsabilité dans ce climat un peu anxiogène?
Forcément, oui.
Nous aussi.
Tous médias, hein, sans étiquette, mais une part des messages relayés par les médias qui forcent à vouloir se serrer la ceinture.
Et peut-être qu'au fond, ce n'est pas seulement une question de possession, mais bien le reflet de notre époque. Et si ce sentiment d'appauvrissement n'était pas seulement dans nos portefeuilles, mais dans l'air du temps lui-même, une époque saturée d'angoisse où l'on se sent dépossédé, même de son propre présent.
Eh oui, Manon.
Eh oui.
Le 19e siècle avait Victor Hugo, le 21e a Quentin, lui. Merci
Quentin
chance. Pour ça. Effectivement, il ne mesure pas
peur.
Sa chance tous les jours.
Pas encore.
Mickaël Mango, est-ce qu'à force de préparer d'éventuels coups durs en permanence, on n'en oublie pas de profiter comme ça, effectivement, du présent?
Oui, mais est-ce que je peux revenir sur le micro-trottoir un petit peu?
Évidemment.
Pour moi, les personnes étaient quand même largement à côté de la plaque.
Ah.
Ouais, oui, je suis désolé, je dois le dire. Déjà, de dire que c'est très français parce qu'on n'ose pas dire, n'ose pas parler d'argent, non, parce que ça a été vu dans plein de pays, notamment aux États-Unis où ils adorent parler d'argent. Donc déjà ça, cette explication, elle marche pas.
Donc c'est pas le problème.
Deux, ça parle pas des vrais problèmes financiers des Français si on compare les générations entre elles, qui étaient largement... Aujourd'hui, les problèmes financiers des Français, c'est parce que le coût du logement est très élevé et parce que le travail rémunère moins qu'avant pour des histoires de charges sociales qui sont plus élevées qu'avant, quoi. Donc ça, c'est pas Spotify le problème. Au contraire, Spotify, ça a diminué la note. Mais c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour payer Spotify et le reste. Il y a ça. Et puis, le point vraiment qui est essentiel, c'est donner un chiffre n'a absolument aucun sens parce qu'il y a en économie du bonheur ce qu'on appelle le tapis roulant des aspirations.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
On est tous sur un tapis roulant. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous gagnez 30, votre horizon, votre aspiration, c'est de gagner 50. Mais quand vous avez gagné 50, vous n'allez pas vous arrêter. Vous n'allez pas vous dire, bah, ça y est, j'ai atteint le Graal, je m'arrête, je suis super bien.
Mais
non, à 50, vous voulez 70. Et à 70, vous voulez 90. À 90, vous voulez 110.
Mais c'est toujours par mécanique de comparaison ou c'est l'être humain qui veut toujours plus tout
c'est
seul.
L'être humain qui veut toujours plus. Là ce n'est pas les autres. Ouais. C'est nos aspirations qui se déplacent comme sur un tapis roulant.
Mais après, Manon. Si je peux me permettre, ce qui est intéressant dans le micro-trottoir, c'est de voir à quel point ça change. Les personnes n'ont pas du tout le même avis sur ce qu'est être riche aujourd'hui. On est parti de 5000 euros pour arriver jusqu'à des millions. Donc c'est une forme de dysmorphie, en fait.
Oui, et je pense que la différence entre les différentes personnes qui ont été sondées, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes informations. Il y en a peut-être une qui regarde beaucoup d'influenceurs à Dubaï, et elle voit que le gars a une Rolls, et elle se dit en dessous de 2 millions, on n'est rien, quoi. Et puis l'autre, il ne regarde pas du tout ça, il regarde des vidéos de nature, et lui, pour lui, à 5000 déjà, il pourrait se payer tous ses campings.
Mais ça peut être aussi en fonction de leurs parents, par exemple.
Oui, la situation historique aussi, par exemple, le fait d'avoir vécu des difficultés financières dans son enfance reste là, même si on a monté les échelons. Donc l'anxiété financière est supérieure chez les personnes qui ont monté les échelons. Alors qu'aujourd'hui,
manquer.
Ils sont bien. Ils ont du mal même à se dire « je suis classe aisée ». Non. On a même dans certains pays, l'Angleterre, une tendance à se voir tous classe populaire. Alors c'est classe moyenne. En Angleterre, c'est classe populaire. Parce qu'il y a un narratif autour de la classe populaire qui est très positif. Ken Loach, le foot, le fish and chips, les Monty Python.
Une question d'affichage, quoi. C'est plutôt valorisant de s'afficher populaire.
On se souvient aussi du grand-père qui nous parlait de son enfance difficile et ça reste dans le récit personnel.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Alors, à ce stade de l'émission, on a déjà bien délimité les contours de la dysmorphie financière, cette perception erronée que nous avons de notre budget. Personnellement, comme dirait Lucien Jean-Baptiste, Dieu merci, j'en suis épargné. Mon statut d'intermittent du spectacle œuvrant dans une radio de service public soumise à la strangulation budgétaire m'en préserve. Et lorsque je rentre dans mon modeste meublé du 10e arrondissement avec mon sac Franprix rempli de coquillettes et de jambon non décoiné, je peux vous garantir que ça aide à garder les pieds sur terre. Mais je ne suis pas là pour me plaindre et je ne pousse pas des wagonnets au fond de la mine. Après tout, finalement, vos sourires ne sont-ils pas le plus beau des salaires?
Oh là là.
Non. Bon.
Mais quel fait, oh là
là. C'est mal écrit.
Vous êtes cringe.
C'est, blague. C'est mal écrit, ah non, c'est-à-dire. Vous pouvez développer peut-être, Victor Hugo?
Ouais, c'est pas...
Merci. Vous démarrez tous les deux avec moins 1. Non, sur vous, vous démarrez à moins 5 et Manon à 0. Très bien, c'est parti. C'est parti pour le quiz. Et tout d'abord, commençons par Manon, qui depuis son retour du Mexique n'est plus la même. Dans la rue, les gens se retournent et la dévisagent, parfois en pouffant. Car oui, on est vite stigmatisé lorsqu'on se balade avec des Santiago en piton, rue Jean-Pierre Timbaud. Au cœur du très bobo 11e arrondissement de Paris, son accoutrement forcément fait jaser. Tu me fais honte, lui a même soufflé ce week-end Pierre Courade, réputé pour son franc-parler. En cause donc, la nouvelle passion de Manon pour le style mexicanais, comme elle l'appelle. En juillet dernier, elle dégotait cette paire de bottes en piton pour une, dans une friperie de Tijuana pour seulement 20 000 pesos. El mejor arnaque de mi vida, dira le vendeur. Depuis, Manon est obsédée. Elle claque tout son blé en sombrero et ceinturon folklorique. Oui, elle est malade et ce comportement, qui consiste à acheter compulsivement en fonction d'un achat initial, c'est le trouble de Voltaire, l'effet Diderot, ou le syndrome de Montesquieu.
B. Avant. C'est notre invité nous a soufflé.
Ah, c'est bien. Ah,
vous avez soufflé. Un peu. Bon, bonne réponse de Manon Marie.
Bah non, on a l'invité.
Ben non, mais l'invité, évidemment, connaît les réponses. Il est prof là-dessus.
Alors, on fait plus
réponse
signe.
B. Parler de bottes en piton et de Diderot dans la même question, nous sommes au cœur du réacteur du gai savoir. Oui, dites-nous.
C'est techniquement, c'est le fait de se construire un mode de vie autour d'un objet. Parce que Diderot lui avait offert un peignoir, c'était Catherine II de Russie, je crois, qui lui avait offert un peignoir. Et après, il a changé toute sa maison pour avoir une maison avec le même faste que le peignoir.
C'était pas dans le...
C'était exactement la suite. Moi, j'avais que c'était la vieille robe de chambre. Une robe de chambre.
Ça,
et il avait tout fait, effectivement, pour être à ce niveau-là. Hélas, il n'y a pas que l'effet Diderot qui joue des tours lorsqu'on parle argent, car nul besoin de contracter des crédits Sofinco sur des Santiago en piton pour flinguer son épargne. Le pire, c'est peut-être les petites dépenses superflues du quotidien. Un café à 5 balles par-ci, un donut à 7 balles par-là, un verre de Petnat facturé 8 euros, alors que l'urine de cheval, qui a le même goût, est gratuite. Et les petits ruisseaux faisant les grandes rivière, votre PEL reste à sec. C'est ce que David Back appelle le glass of wine factor, le cookie factor ou le latte factor.
Ah,
c'est.
Glass of wine. Moi, il y a du vin.
Il y a du vin, vous sautez c'est dessus. Vrai. Pour vous, c'est le latte.
Ouais.
Prenez souvent des lattes, vous?
Non, j'aime pas le lait.
Très bien, très bonne information.
Vous le digérez pas,
c'est néanmois une bonne réponse. Oui.
Si, je l'ai déjà vu.
Manon, réfléchissez-y. Supposons que vous arrêtez de prendre votre petit brouilly du soir à 5 euros et vous placez cette somme dans un placement rapportant 10% par an. Eh bien, dans 40 ans, vous auriez 1 million d'euros en poche. Bon, évidemment, ça présuppose deux choses.
Ça, ouais.
L'une, improbable, à savoir trouver un placement à 10%, et l'autre, relevant carrément de la science-fiction, dans votre cas, arrêtez de boire. Oui, autant lâcher l'affaire. Et continuer à kiffer la vibe et claquer toute son oseille sans penser à demain, parce qu'après tout, notre civilisation est foutue et nous sommes sur un caillou qui file à 100 000 km/h dans l'espace. Oui, parfois je... Cette tendance à lâcher des bifetons dans des dépenses somptuaires pour répondre à un stress, une anxiété que l'on observe plus particulièrement chez la Gen Z. Manon, Quentin, vous savez sûrement que ça s'appelle le doom spending, le syndrome d'Armageddon ou faire de la merde, le fameux shit making.
Ah,
dis avant.
Je crois que je suis devant.
Non.
Alors... Un point pour Quentin. Comme il a moins 5, il revient à moins 4. C'est-à-dire que la compétition est folle.
Réponse. Dites un point pour Quentin, c'est pas grave. C'est fou ça.
Ce son dont je ne me lasse pas, parce que comme Cyril nous entendons en ce moment, j'aime la flûte. Et parce que bien évidemment, cette tendance nous vient d'outre-Atlantique. On a d'ailleurs observé une accélération du doom spending au moment de la dernière élection de Donald Trump. Et pour terminer, et sans que ça ne vise personne en particulier autour de cette table, à part peut-être Cyril, qui en étant bon père de famille, l'une à Paris, l'autre dans le Luberon, qu'on salue d'ailleurs, Panis, Angèle, Hugolin, voit sûrement de quoi je parle. Manon, Quentin, pouvez-vous me dire ce qu'est l'infidélité financière? C'est consacrer des dépenses à son partenaire de jardin secret, en gros à son amant ou sa maîtresse. C'est tromper sa banque avec une autre banque.
Ah.
Ou c'est ne pas dire à sa compagne ou son compagnon qu'on vient de gagner à l'euro million.
Oh,
B.
C.
À votre 1, on déduit que c'est ce que vous feriez dans votre cas, Manon.
Mais pas du tout, jamais.
Vous communiquez immédiatement là.
Bah oui.
Mon pop.
Ah oui, tout de suite, immédiatement.
Bah, je sais pas, c'est mon copain quand même.
Je sais pas, vous pourriez vous dire, j'attends un petit peu, je fais une surprise ensuite, je l'invite dans un endroit incroyable. Non?
Oui, peut-être, bah je sais pas.
Réponse,
ça n'est
cas,
pas arrivé, donc bon.
C'est la bonne réponse. Et oui, Quentin, vous qui planquez toute Elias provenant des 17 sociétés de la Lui Corporation dans la doublure de vos blousons de moto, vous êtes non seulement un fraudeur à l'URSSAF, mais également un infidèle financier. Mais la notion est beaucoup plus large, puisque cacher ses dettes à son ou sa partenaire fait également partie du concept défaite de l'amour, mais victoire de Manon Mariani, victoire assez large, hein, il faut il faut bien le dire, évidemment.
5 points de... Deux moins quatre.
Retrouvez votre feuille, Mathieu.
Mais je ne sais pas où est ma feuille, mais vous savez, elle est certainement là, pas
très
loin.
C'est la page 16,
c'est
Mathieu.
La page 16, tout à fait. Quand scroller sur les réseaux sociaux nous entraîne à flinguer notre... C'est lundi. Hein. Quand scroller sur les réseaux nous entraîne à flinguer notre épargne un peu rapidement, zoom cet après-midi sur la dysmorphie financière avec l'économiste Michael Mango. On en parlait tout à l'heure hors antenne, Michael. Et il faut revenir aussi, pour mieux comprendre ce concept même, il faut revenir sur la psychologie des riches.
Oui. Il y a des... l'anxiété financière n'est pas du tout l'apanage des plus pauvres. Hein. Vous pouvez être très riche et ressentir cette anxiété. Parce que, encore une fois, vous avez sans doute un tissu social qui, lui aussi, est riche. Donc, il va falloir tenir le rythme. Et puis, vous avez vraisemblablement construit un mode de vie qui est aligné avec vos hauts revenus. Donc vous avez un très bel appart, une très belle voiture, peut-être une maison en Normandie, vous avez
un
abonnement au country club, enfin des choses comme ça.
Ça, j'ai pas.
Et là, l'anxiété qu'il y a derrière, c'est, bah, vous savez que vous pouvez pas lâcher, vous devez continuer de jouer ce jeu professionnel, parce que si vous voulez tout plaquer pour devenir fleuriste ou pâtissier,
c'est
vous
foutu.
Pouvez pas. Ce serait un déclassement terrible. Donc on a repéré dans les études sur d'économie du bonheur qu'il y avait maintenant quelque chose de très bizarre. C'est que le sentiment de bonheur augmente avec les revenus, mais jusqu'à un plus haut qui est autour de 100 000 euros en France. Et après, ça décroît. Apparemment, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe chez les gens qui gagnent plus que 100 000? Enfin, chez même les foyers qui gagnent plus que 100 000. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que les gens avec des très hauts revenus, ils ont le sentiment de ne plus avoir le contrôle sur leur vie. Plus du tout.
D'être esclaves de leur argent.
Oui.
De leur niveau de vie.
De leur niveau de vie. Ou, en tout cas, du mode de vie associé à leur carrière, par exemple, qui génère effectivement beaucoup d'argent, mais qui génère aussi une sorte de cage dorée. C'est-à-dire qu'ils ont tout bien défini, ils ont vraiment une vie très agréable, très confortable, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas lâcher pour tout changer.
Et donc c'est très intéressant, parce que souvent les gens qui gagnent de l'argent disent « mais moi l'argent ne m'intéresse pas, ce que j'achète c'est de la liberté ». Mais en fait ils n'achètent pas tant de liberté que ça, ou alors en tout cas, peut-être à partir d'un certain seuil élevé, même pas.
Non, il n'y a pas une science de la dépense chez les plus riches, non. Non, pas du tout. Donc, dans le micro-trottoir, il y avait cette idée qu'il y avait des très riches là, qui mentaient. Mais non, ils ne mentent pas. Ils ressentent vraiment cette tension, en fait. C'est qu'ils n'ont pas créé cette marge de manœuvre qui leur permettrait de vivre comme ils veulent vivre.
Mais vous parlez, en revanche, d'avoir une épargne de précaution. Et que ça, c'est très bon pour le bonheur.
Ah ouais.
Ça veut dire quoi? D'avoir, par exemple, un mois de salaire de côté?
Un peu plus, 3-4 mois. Mais vraiment, ce qui ressort, c'est que c'est cette épargne-là qui est importante pour le bonheur. Le fait d'avoir une très belle maison déjà payée joue pas beaucoup pour le bonheur. Le fait d'avoir un beau portefeuille d'actions françaises ou américaines bien rempli joue pas pour le bonheur. Par contre, d'avoir un bas de laine qui vous permet éventuellement de lutter contre un quelconque coup dur, ça c'est crucial. C'est vraiment le jour et la nuit entre celui qui a pas le bas de laine et celui qui a le bas de laine. Et donc c'est 3-4 mois, on va dire, de revenus.
Bah, par exemple, à l'heure où on parle beaucoup de la tension dans le marché immobilier, est-ce que vous diriez que c'est plutôt le conseil que vous donneriez aux gens, c'est plutôt d'avoir effectivement un bas de laine, enfin j'imagine un compte surlivré à la banque, plutôt que de s'endetter pour acquérir pour devenir propriétaire, si on parle de bonheur pur?
Totalement. Il y a un tout petit avantage des propriétaires sur les locataires en termes de bonheur si on fait toutes choses égales par ailleurs.
Ouais.
Et il y a une erreur classique, c'est de tout mettre, de mettre toute son épargne comme apport pour acheter un appart. Là, c'est flinguer son bonheur tout de suite, quoi. Donc, il vaut mieux diminuer un peu l'apport, augmenter les traites, mais avoir toujours le volant de sécurité.
Manon ?
Non, je prenais des notes.
Vois que cette émission vous passionne comme rarement, Manon.
Vous dites que quand vous vous sentez pauvre, c'est que vous avez tendance à voter pour les partis populistes. C'est ce qu'on appelle le sentiment de relégation, c'est ça ?
Il y a effectivement... une certaine aigreur quand on découvre qu'on est en bas de la pyramide sociale. Et d'ailleurs, il y a des études expérimentales là-dessus. Quand on manipule votre sentiment de votre position sur l'échelle sociale, ça change complètement votre orientation politique, notamment vis-à-vis des politiques de redistribution. Quand vous vous sentez bas sur la pyramide sociale, vous voulez de la redistribution. Et quand vous êtes, ou on vous fait croire que vous êtes haut sur la pyramide, vous dites non, la société fonctionne bien comme ça, pas besoin de redistribution.
Petit point pédagogique pour décourager le vote populiste. Rappelons que d'après l'Observatoire des inégalités, gagner 4 416 euros net par mois vous propulse parmi les 5% des Français les plus riches.
Oui, et puis la classe moyenne, on en parlait tout à l'heure, classe moyenne, c'est entre le 3e et le 8e décile, donc il faut laisser 20% au-dessus de vous qui sont les classes aisées, et si vous êtes célibataire, c'est, vous êtes aisé assez vite, hein. C'est autour de mémoire, je dis ça de mémoire, mais 37-40 000 euros annuels.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir ce que contient la pièce jointe de Manon Mariani.
Et aujourd'hui, un hashtag, il est très populaire sur TikTok, sur les forums Reddit, le hashtag no buy, ne plus acheter.
Qu'est-ce que c'est un no buy ? C'est un challenge où vous décidez de ne plus acheter de choses neuves.
Comme vous l'entendez, le but du no-buy est de ne plus rien acheter de superflu pendant une période définie. En général, ça dure une année entière. Une tendance qui séduit des internautes lassés du consumérisme et soucieux de reprendre le contrôle sur leurs finances. En 2025, le hashtag no-buy regroupe des millions de vues sur TikTok. Alors, l'idée n'est évidemment pas nouvelle, mais elle connaît un vrai regain, notamment depuis le Covid, ce moment où on a pu faire des économies malgré nous. En soi, c'est une manière de se réapproprier son argent, mais aussi son temps dans un monde saturé de publicité et d'achats compulsifs. Ce qui est drôle, c'est que ça se passe donc sur les réseaux sociaux qui sont tous devenus des plateformes de shopping maintenant. TikTok Shop cartonne par exemple. Aux États-Unis, les hashtags via les live shopping ont augmenté de 120% en 2025.
Et c'est donc là-bas qu'on voit le plus de vidéos sur le no-buy.
Oui, exactement. Des milliers d'internautes parlent de leur envie d'arrêter d'acheter tout et n'importe quoi. Pour y arriver, ils se mettent des règles précises. Plus de vêtements neufs ou d'occasion, plus de cosmétiques, plus de livres, plus de gadgets. Certains ne s'autorisent même qu'un seul plat à emporter par mois. Alors évidemment, tout ce qui est courses, produits ménagers et produits pour se laver, c'est autorisé. Économe mais pas crasseux et avec le ventre rempli, faut pas abuser. Sur Reddit, il y a une vraie communauté autour du no-buy qui réunit plus de 70 000 membres. On y partage des astuces, des encouragements, des témoignages. Certains utilisateurs racontent comment ils ont réussi à rembourser leurs dettes grâce à ces économies. D'autres comptent combien d'argent ils ont économisé. Ça peut monter jusqu'à 100 000 dollars si on en croit leurs témoignages. En un sens, on peut comparer ce défi à une sorte de régime, mais appliqué à la consommation.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il y a 6 mois, il découvrait que les femmes n'avaient pas toutes leurs règles en même temps, le 10 du mois.
C'est vrai,
ça qui est fou. Jeudi dernier, Pierre Courade, élevé, rappelons-le, dans un internat catholique rigoriste où aucun enseignement sur la femme n'était délivré autre que femme égale Belzébuth, Pierre a donc découvert l'existence et le fonctionnement du tampon avec applicateur.
Tout
ça pour avoir croqué dans une pomme.
Avec de l'eau,
pauvre bonne femme, commentera Pierre effaré. Pierre, il est temps de vous remettre de toutes ces émotions et de nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono sur le thème de la dysmorphie financière, évidemment, et pas une minute chrono, ce qui est aussi votre style.
Oh, dis donc, Mathieu, on a découvert quelque chose. On a tous découvert la dysmorphie financière aujourd'hui. C'est quand on se croit plus pauvre qu'on ne l'est en réalité. Parfois, on se croit plus riche, mais ça, c'est plus rare. Pour en parler avec nous, l'économiste Michael Mango, lui, il préfère le terme anxiété financière. Mais comme c'est nous qui décidons du nom de l'émission, on est resté sur dysmorphie financière, ne nous en voulez pas. Cette dysmorphie, elle se fait de plus en plus visible depuis que les réseaux sociaux nous montrent en permanence les vies de rêve des uns et des autres, les week-ends jet set à Barcelone de Manon, les déjeuners dispendieux de Mathieu au Léon de Bruxelles de la zone industrielle de Dreux, les escapades en voiture de sport de Quentin dans le micro-trot du jour et largement à côté de la plaque d'après notre invité.
Les témoignages.
On se sent pauvre parce qu'on ne peut plus se permettre de telles folies. Conséquence, on dépense plus qu'on ne devrait, on se met dans le rouge, on s'endette. C'est donc un phénomène psychologique qui a une incidence directe sur notre compte en banque, mais qui a une utilité, la motivation, un moteur dans un monde baigné dans ce que notre invité appelle l'homophilie. On s'entoure généralement des gens du même milieu, ce qui fait qu'on a l'impression de toujours faire partie de la classe moyenne, qu'on soit pauvre ou riche.
Merci Pierre, vous avez tenu parfaitement votre timing. Michael, vous voyez quelque chose à ajouter qu'on aurait oublié de traiter dans cette émission ?
Non. Après, la perception des inégalités aussi, la perception de la mobilité sociale, c'est hyper important pour le bonheur. Avoir l'impression qu'on est dans une société juste, où le travail est récompensé, même si c'est une illusion. Admettons que ce soit pas vrai, je vous laisse juger. Vivre avec cette illusion est très bon pour le bonheur. Donc, vraiment, j'insisterai là-dessus. Ce qui est important, ce sont les perceptions, plus que la réalité.
Travailler sur nos perceptions, plus que sur la réalité. Marine, vous n'avez pas adhéré à ce concept de dysmorphie financière.
Non, mais pardon, excusez-moi, mais faut juste arrêter de tout renommer, quoi. Un mec qui croit qu'il a pas un rond alors qu'il est plein aux as, c'est un radin. C'est tout, point barre. Il nous fait une la carrière, comme on dit dans le métier. Oui, bah Cyril, excuse-moi. Enfin, 35 euros brut, la chronique. Hein, et parfois, c'est moi qui t'offre le café, qui est payant, je le rappelle, à la maison de la radio. Non, mais je le rappelle pour nos auditeurs et pour les syndicats qui nous écoutent. Je gagnerai plus d'argent en me promenant avec des chiens dans le bois de Boulogne. Et je ne parle pas de l'animal. Oh, bah écoutez, quitte à soulager un mammifère à quatre pattes, je préfère encore coordonnées de ma personne. Moi, ça me fait tout. Ça me fait toujours rire. Oui, bah écoutez, je me suis fait belle aujourd'hui, c'est pas pour rien. Moi, ça me fait toujours rire quand on se tape des commentaires sous nos vidéos. Et ça, c'est nos impôts, ou encore, et c'est Nicolas qui paye. Vous avez vu cette nouvelle tendance, hein, c'est Nicolas qui paye. Et ben, j'ai envie de dire, gros rat, Nicolas. Hein, il souffrirait pas de dysmorphie financière, notre Nico. Et puis, c'est pas sympa, pardon, notre RH s'appelle Delphine. Delphine qui m'a augmenté de 10 euros brut par chronique cette année, histoire vraie. Apparemment, elle estime que faire un lien systématique entre le thème de l'émission et ma chatte n'est pas une vraie compétence. Je ne sais pas. Moi, bon, après, je ne me plains pas. Non, attendez. Je ne me plains pas. Elle m'a montré la fiche de paye de Pierre Courade. Bon. Bah, il y a des minutes mieux payées que ça, mon Pierrot. Je te ferai le contact. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut arrêter les nouveaux concepts, parce qu'après, tu te retrouves en date avec un gars qui te baratine. Tu vois, en ma date, tu comprends, Sarah, grâce à Zoom Zoom Zen, j'ai compris que je souffrais de dysmorphie financière. Fuis, ma belle. Voilà. Déjà, parce que c'est pas normal que quelqu'un de 25 ans écoute cette émission. Et pour les trois jeunes devant leur radio à 17h, bon, certainement des profs de français, suivez ce conseil. Voilà, mariez-vous pour l'argent et non l'amour, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Là, j'ai des copines mariées à des mecs multimillionnaires, calvitie, gros bide. Eh ben, je peux vous dire qu'il vaut mieux bitcher sur son mari dans une Tesla que dans une Renault Captur. Ah, j'ai testé cet été, quiconque a déjà fait 600 km en bagnole dans une Captur, c'est qu'elle porte bien son nom. Oh putain, j'ai eu les fesses engourdies pendant 2 semaines et pas pour les bonnes raisons. Bon, après, quand ton mec t'appelle gros, hein, et te demande de lui mettre le McDo à même la bouche pendant qu'il conduit, bon, tu te dis que tu voyages pas non plus avec Ryan Gosling. Ryan Justice. Apparemment, les Français estiment qu'à partir de 10 millions d'euros sur le compte en banque, on est riche. Faux ! S'écrit Mathieu Noël. Pardon. C'est ma blague préférée de la chronique, mais je dis ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit avec ou sans les intérêts composés. Ah, je t'expliquerai ce que ça veut dire, Pierre, mais t'es pas concerné. Non, tu sais que ton pote est blindé hein, quand il te sort. Non, mais la Rolex, c'est un investissement. Ah putain, le mec qui me dit ça, je l'épouse direct. Il est bête et riche, c'est vraiment ce que je me souhaite dans la deuxième partie de ma vie. Non, mais toi, ton investissement, c'est de faire 10 km en bagnole pour acheter les couches en promo chez Leclerc, que tu revendras sur Le Bon Coin à la moitié du prix parce que t'en as beaucoup trop acheté et que maintenant ta gamine, elle rentre au collège. Alors, Cyril et Mathieu rigolent pas trop à cette blague parce qu'ils viennent d'apprendre que les couches ne s'achetaient pas qu'à la Biocop. Le choc, hein, ils s'envoient un texto. Leclerc, elle abuse quand même sur les rêves. Enfin, tout le monde ne l'a pas. Non, parfois, quand même, je fais de la dysmorphie financière. Par exemple, si tu me fais économiser. Oh là là, les frais de port. Mais moi, tu me fais gagner 5 balles, j'en dépense 50. Je t'explique, c'est n'importe quoi. Et je me dis que j'ai gagné de l'argent. Et qu'au pire, je revendrai le truc sur Vinted. Et que je gagnerai encore plus d'oseille. Enfin, genre une pyramide de Ponzi dans ma tête. Une façon de raisonner toute pétée qui m'a quand même permis d'être à cette table aujourd'hui en ayant l'impression d'être gagnante. Bon, allez, je vous laisse. J'ai quelques chiens à promener aujourd'hui au parc Monceau.
Merci beaucoup, Marine Léonardi. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Et grande nouvelle, vous serez les 13 et 16 décembre 2026 dans la belle salle du premier soutien.
Je me suis trompée.
Du 10 au 13 décembre prochain, effectivement, dans la salle du premier soutien de Philippe Devilliers, Vincent Bolloré. Vous serez donc à l'Olympia. Très belle salle. Le reste de la tournée sur marineleonardi.com. Merci Mickaël Mango d'être venu nous expliquer ce qu'est la dysmorphie financière et au-delà l'anxiété financière. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant à l'ESSEC. Vous, surtout, ne bougez pas. Elle a fait l'ESSEC, ça se voit pas, mais c'est ce qu'elle avait mis dans son CV. On ne sait pas si elle l'a vraiment fait. Vous vérifierez. Zoom Zoom Zen.